Bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDWA. C'est Fred et Pierrick qui vous parlent d'astronomie ce dimanche matin. Et au programme aujourd'hui, alors comme d'habitude, on vous fait un petit sommaire de l'émission.
Ah oui, dis-nous un peu de quoi on va parler aujourd'hui.
Ça va Fred ?
Ça va Pierrick ?
Ouais. Eh bien, en première partie, on va parler un peu du ciel ce soir. Qu'est-ce qu'on voit ce soir ?
C'est quand même la base de l'émission. Hein.
Ouais.
Observer le ciel, regarder un peu ce qui se passe.
Après, une petite question. Pourquoi la Lune et le Soleil ont le même diamètre apparent ?
Ouais. Grosso modo, pourquoi ils ont la même taille dans le ciel ?
Ouais. Après, un petit tour d'actualité, on a décidé de prendre un article de journal. On vous en parlera mieux après.
Ouais, ça promet, ok.
Après Fred, vas-y.
Bah, un petit point d'astro. Alors là, cette semaine, on va parler de la physique, des modèles de la physique. Et pour placer le vocabulaire, là encore, parce que souvent on parle de particules, de photons, de trucs. Donc là, on va parler des quatre interactions fondamentales de la physique et faire un petit bestiaire des particules élémentaires.
Savoir de quoi on parle au niveau de tout ça.
C'est ça.
Ok. Après une petite pause musicale. Ensuite, je vais vous parler de l'exploration de Vénus, et un petit peu de la planète Vénus aussi, du coup. Mmh. Après, Fred, tu nous feras un petit topo sur le programme SETI.
Et puis on dérivera assez vite un peu, on va parler de l'imaginaire des rencontres extraterrestres.
Oui, parce que le programme SETI, en deux mots, c'est pour...
Search for Extraterrestrial Intelligence.
Waouh, vaste programme.
Ok, alors le ciel ce soir. Bon... On va faire un petit tour des constellations, comme d'habitude.
Donc,
c'est toi qui t'en charges, Pierrick. Allez,
ouais,
vas-y,
allez.
Attaque. T'as l'air motivé.
Donc, toujours, en ce moment, il y a Orion. Donc, toujours qu'on voit bien. Ça, c'est cool. J'aime bien cette constellation avec Bethelius et Rigel qui brillent bien.
Ouais.
Donc, Orion, c'est toujours ces trois étoiles bien alignées en ligne droite qu'on voit bien.
Avec la grande nébuleuse d'Orion juste en dessous dont on a parlé.
Ouais. Après, bon, bah, il y a toujours... étoile polaire hein, qui est toujours là avec la grande ours d'un côté, en face il y a Cassiopée, ça c'est toujours, elles sont toujours là, elles,
un bon repère. Ouais,
ouais. Et le matin on a quand même le ciel d'été qui commence à se lever.
On a le ciel d'été en fin de nuit et il y a quand même donc là aussi une constellation qui est bien sympathique à observer, c'est le Lion, une belle constellation aussi avec Régulus, l'étoile la plus brillante. C'est un joli dessin dans le ciel. On voit bien sa tête, son corps, c'est voilà, à observer. Et cette semaine, on va faire quand même un focus sur cette conjonction, en fait, conjonction planétaire qu'on a en ce moment. Donc ça, c'est au petit matin. Là, il faut être soit se coucher très tard, soit se lever tôt, vers 4h, 4-5 heures du matin, dans les lueurs de l'aube, on le voit encore. Et on a Mars, Jupiter et Saturne qui sont proches les unes des autres. Donc on a quand même les trois planètes. Bon, il y a Vénus qu'on voit que le soir, mais là on a les trois autres planètes les plus brillantes qu'on peut observer qui sont réunies dans la même zone du ciel.
Je précise juste qu'il y a aussi le 18 et 19 mars, il y a la Lune en croissant.
Mais ça s'est passé, ouais, c'était cette semaine. C'était cette semaine. Alors par le jeu des dates d'enregistrement, on n'a pas pu l'annoncer avant, mais effectivement dans cette conjonction là il y a la Lune qui s'est baladée cette semaine, donc c'était le 19 mars. Donc j'espère que vous avez pu le voir, mais si c'est pas le cas, de toute façon le rassemblement des trois planètes, la conjonction là, elle est toujours d'actualité, donc vous pouvez y aller dès ce soir ou enfin demain matin très
faut
tôt.
Faut se motiver. Hein.
Motivez-vous, je pense que ça vaut le coup. Et si vous avez un télescope, c'est encore mieux. Quoi.
Parce c'est que magique.
Là, d'un coup, vous pouvez voir les trois. Saturne, clairement, on voit les anneaux. Selon la taille du télescope que vous avez, vous pouvez voir les divisions dans les anneaux. Parce que c'est pas un anneau hein, autour de Saturne, c'est tout un réseau d'anneaux. Là. tous dans le même plan, mais donc il y a des divisions, il y a des zones d'ombre.
Oui, des fois on la voit un peu de dessous.
Ouais, alors c'est... ça dépend un peu
de l'inclinaison.
Ouais, de l'inclinaison, de comment elle se présente, où elle en est dans son mouvement, tout ça.
Ouais.
Après, vous avez Jupiter, on voit quand même des bandes, hein, sur Jupiter. On peut voir la tache rouge aussi si on grossit un peu. Et puis Mars. Mars, on voit aussi les calottes glaciaires de Mars. Alors, ce n'est pas de l'eau, hein, c'est de la neige carbonique, c'est du CO2, du gaz carbonique qui est sous forme solide. Et ça fait cette espèce de neige. Mais ce n'est pas de l'eau. Voilà.
Oui, préciser que c'est bien du CO2 et pas du H2O.
Donc voilà pour le ciel ce soir, ce petit tour des constellations, ce focus sur cette belle conjonction planétaire.
Super.
Et voilà, on va passer à la question.
À la question. Alors, c'était pourquoi la Lune a le même diamètre apparent,
apparent,
qu'on voit, qu'on observe, que le Soleil.
Ouais. Alors ça, c'est quand même une question... qui revient régulièrement aussi, pas si souvent, mais il y a quand même des gens qui se la posent. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Et effectivement, on a deux choses qui apparemment n'ont aucun rapport. Notre étoile, le Soleil, autour de laquelle tourne la Terre. Il a une certaine taille, ce Soleil. Il a une certaine distance de nous.
Ouais.
Et ça, par un jeu de géométrie, ça lui fait une certaine taille dans le ciel. OK. Et on a un deuxième fait, qui est que la Terre a un satellite qui s'appelle la Lune, donc qui tourne autour de la Terre, hein, la Lune cette fois, qui elle aussi a une certaine taille et qui a une certaine distance de la Lune et là encore de la Terre pardon, et là encore ça lui fait une certaine taille dans le ciel. Et il se trouve, fait incroyable, que ces deux tailles apparentes sont les mêmes. Apparente, hein, parce que le Soleil, c'est une énorme boule. La Lune, c'est un caillou qui est plus petit que la Terre. Donc, on est dans des choses qui n'ont rien à voir. Quoi.
Oui, en termes de diamètre.
De diamètre véritable, réel, ça n'a rien à voir.
C'est, ouais, rien à voir.
Le diamètre, le rayon du Soleil, c'est 750 000 km. Celui de la Lune, je crois que c'est 1000, 1300, quelque chose comme ça.
Ah ouais, donc vraiment rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Mais
pourtant,
la Lune est beaucoup
éclipses,
plus proche de nous. Donc voilà. Et ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on peut avoir des éclipses. En tout cas, qu'on observe ces éclipses, c'est-à-dire que quand la Lune passe devant le Soleil, elle le masque parfaitement. Alors, la distance entre la Terre et la Lune, elle varie un petit peu. Et donc, des fois, la Lune, si elle est un peu plus loin, du coup, son diamètre apparent, il diminue un peu. Hein. Elle est un peu plus petite, puisqu'elle est un peu plus loin dans le ciel. À partir de là, on peut avoir une éclipse dite annulaire. Alors qu'on voit quand même un tout petit bout de...
Un petit anneau.
Un petit anneau autour, en fait, de l'ombre de la Lune. Mais sinon, le reste du temps, il masque entièrement et on a à ce moment-là l'apparition de la couronne solaire, donc les protubérances, tout ça. Donc ça, c'est des images que vous connaissez sûrement, quoi. Donc voilà, on se pose la question, pourquoi elles ont la même taille?
Ouais, okay. Pourquoi quand on observe ça, ouais, ça...
Eh bien, la réponse que donne la science, c'est il n'y a aucune raison.
C'est le fruit du hasard.
C'est le fruit du hasard. Alors là, voilà, c'est un peu étonnant quand même, parce que... Je crois qu'il y a, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas d'autres cas où la science répond. Je ne sais pas. C'est il n'y a pas de raison pour que ce soit comme ça en fait. Il n'y a aucune raison scientifique pour que la Lune.
Même pas une explication.
Rien.
Ouais, oui.
Ça, c'est juste des jeux de géométrie, de distance, de taille, et ça fait ça. Voilà, le résultat qu'on observe, c'est ça. Mais selon la science et ses modèles, il n'y a aucune raison pour que ça soit comme ça. Alors bon, ça
le prend... grand architecte a fait ça bien.
Alors voilà, donc on en arrive à des questions de cet ordre-là. C'est bon, ok, vous nous dites que c'est un hasard, moi je veux bien l'entendre, mais quand même c'est étonnant. Enfin, surtout au niveau symbolique en fait, la Lune, le Soleil, l'homme, la femme, tout ce que vous voulez là, ça a la même taille. Donc là, on rentre dans des explications, il n'y en a pas en fait. Donc on peut rentrer dans des choses symboliques, ésotériques, ce qu'on veut. Mais scientifiquement, il n'y a aucune réponse à cette question. En fait, il n'y a pas de question. Pour la science, ce n'est même pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question.
Ça inspire... Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire finalement? je ne sais pas trop.
Voilà, donc on voulait vous faire part de ça quand même, parce que c'est... matière à réflexion.
Si vous avez des explications, dites-nous. Hein.
Ouais. Ou pas, gardez-les pour vous. Voilà. Ok.
Merci Fred.
Avec plaisir. Alors,
Et du coup, tu voulais nous parler un peu des particules élémentaires.
Non, d'abord, on va faire le petit point d'actualité.
Ah oui, c'est vrai.
Parce
j'ai
que
tu vas
alors,
vite.
Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un journal que j'achète jamais. Alors ce journal, je vais pas le citer. Voilà, j'ai mes raisons. Je veux pas casser ce journal. Mais en tout cas, voilà, découverte de la première espèce intelligente qui s'est autodétruite. Alors ceux qui ont acheté le journal pourront savoir de quoi il s'agit. Et là, c'est assez étonnant. On apprend qu'une expédition scientifique a retrouvé les vestiges d'êtres vivants scientifiquement avancés qui semblent avoir généré leur propre extinction. Alors, on est un peu étonné quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que cette espèce donc, s'est autodétruite, que selon le Centre Orbital de Planification, donc le COP, lors de la mission COP25...
Tadam ! Alors là, déjà, petit signe.
Cette mission a été menée dans un système lointain, donc de 8 planètes, et qui a une équipe d'exo-archéologues.
Ça te donc, plaît, ça.
Donc des archéologues qui étudieraient donc, le passé de civilisations
exoplanétaires.
En fait, ouais, exoplanètes, hein, donc de planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc que cette équipe d'exo-archéologues a franchi son atmosphère, s'est posé sur la planète, a trouvé des constructions abandonnées, effondrées, qu'ils ont retrouvé des formes de vie uniquement bactériennes. Et alors là, c'est intéressant. Là, on dit que de nombreux témoignages ont été, des témoignages écrits ont été retrouvés grâce aux capteurs de matière travaillée.
Ouais, alors, pour traduire la langue qu'on
alors,
connaît pas.
Alors, je sais pas, moi, j'ai bon, voilà. Ce qui a permis aux assistants numériques, donc des petits robots, je sais pas, d'apprendre carrément rapidement les langues utilisées sur la planète.
Trop fort.
Voilà. Alors, bon, moi, j'avoue, j'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? Là, on est dans le grand n'importe quoi. Alors, toi, Pierry...
Moi, j'ai vu un petit côté ironique, satirique.
Ouais, non, mais voilà.
Assez rapidement, mais c'est vrai que quand tu prends le journal, au début tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?
Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors effectivement, moi aussi, hein, quand j'ai vu le titre « Découverte de la première espèce intelligente qui s'est autodétruite », le premier truc auquel j'ai pensé, c'est nous, c'est l'homme, quoi. Là, on est quand même, on va pas refaire le tableau, mais on est quand même en chemin vers un truc pas forcément guilleret. En tout cas, voilà, à voir. Mais après, quand on lit l'article, bon, l'article n'est pas signé, ceci dit, comme aucun des articles de ce journal, mais c'est pas un journal satirique, quoi. L'article d'avant, il est censé être sérieux. L'article d'après aussi.
C'est ça qui est surprenant.
Et au milieu de ça,
ils nous perdent un peu là-dedans.
On n'est pas le 1er avril et on se demande un peu. Alors effectivement, quand on lit ça, voilà, COP25, etc. 8 planètes comme par hasard, comme notre système solaire. Donc c'est vrai que toi, quand j'ai vu ta réaction, quand je t'ai montré le journal, bon, je me suis dit oui, il a raison. Le gars, il a fait une espèce de satire, quoi. Enfin,
oui,
il s'est tapé un délire, ouais. Mais voilà, ce qu'il veut dire, c'est que nous, on est peut-être en train de s'autodétruire.
C'est même cynique, un peu, même dans ce journal-là.
Ouais,
se demande ce que ça fait là.
Et mais bon, moi, en fait, j'avais envie de parler un peu de ça ce soir. Déjà, parce que ça, c'est drôle, quoi, quand même. Le coup, je sais pas où il a sorti ça, mais le coup des... c'est quoi là les capteurs de matière travaillée, enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire, les exo-archéologues et tout, enfin, c'est quand même marrant. Et moi, je pense que quelqu'un en fait qui est pas forcément averti sur le sujet et qui lit ce journal et là sans l'avertir on lui balance ça, je suis pas sûr que forcément tout le monde ait le recul de se dire bah non, c'est n'importe quoi, bah oui, il fait un parallèle avec nous, et de comprendre l'allusion, quoi.
Et en plus, c'est en première page, donc c'est ça qui est
ouais.
La première espèce intelligente qui s'est autodétruite.
Ouais. Alors voilà, et moi, ça m'a amené un peu à une réflexion.
Soyez toujours vigilant sur ce que vous lisez.
Ouais, c'est ça, alors sans vouloir donner des leçons, mais c'est vrai que hyper souvent, sur la science, et en particulier sur l'astronomie, on peut lire des fois des trucs où c'est un peu tout et n'importe quoi. Et voilà, méfiance là-dessus.
Apprendre avec du recul.
Ouais, et puis quelles sont ses sources, quoi. Est-ce que l'article il vient sur MSN Messenger là, ou est-ce que ça vient de la recherche, ou est-ce que même si ces scientifiques n'ont pas toute la vérité, au moins quand ils racontent des trucs, c'est étayé, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Et je trouve ça, en fait, je trouve que ça craint un peu de publier des trucs pareils sans avertissement, en fait. Parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont lire ça et qui ensuite vont le répéter. Mais si c'est vrai, et donc ils vont penser quoi? Qu'on a vraiment envoyé un vaisseau avec des gars sur une autre planète, alors qu'on le rappelle, l'homme, il n'est jamais allé plus loin que la Lune. Quoi. La Lune, c'est la banlieue immédiate de la Terre. Voilà, c'était un peu ces réflexions-là sur ce sujet.
Mais c'est quand même drôle.
Mais en tout cas, c'est drôle. Et ouais. Mais c'est bien que quand je te l'ai montré, toi, tu as vu cette réaction. Enfin, là encore, l'intérêt de partager les choses.
Ouais, le coup de la COP25, je me suis dit, forcément, ils se foutent de la gueule de nous. Ils se foutent de notre gueule.
Bref. Ok.
Ces derniers explorent plutôt la piste d'une extinction endogène. La première jamais observée chez une espèce aussi avancée. C'est une petite mise en garde quelque part.
Ouais. Non mais si on prend comme ça, ok. Donc là voilà, c'était plutôt le point de non-actualité pour cette semaine. Ok, alors on va passer au point d'astronomie. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des quatre interactions fondamentales de la physique. C'est-à-dire en fait de comment en fait de la description de la réalité que fait la physique. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Donc ça va être aussi le bestiaire des particules. De quoi est constituée la matière?
Quand tu dis bestiaire, juste c'est.
Bestiaire, c'est un peu un descriptif de ce qui existe.
Ok, descriptif.
Ouais, ça c'est. Alors je commence par les quatre interactions fondamentales. Pour la physique, on a parlé de la notion de force avec Newton la semaine dernière. Donc lui, le premier à avoir émis cette idée d'interaction, en fait. Donc lui, c'était avec la gravitation, c'est-à-dire des objets qui ont une masse s'attirent mutuellement. Et lui, il décrit comment. Et ça, c'est la première des quatre grandes interactions de la physique, c'est la gravitation.
D'accord.
Et ça s'applique à toutes les échelles, que ce soit microscopique ou astrophysique. Quoi. Donc, tous les corps, donc tout a une masse dans l'univers.
Oui, à l'échelle atomique aussi, ça...
Bah ouais.
C'est
donc, entre les atomes, entre les molécules, ça va jouer. Mais après, ça va très peu jouer, en fait, à cette échelle-là. Beaucoup moins que les autres interactions dont je vais parler après.
D'accord.
En tout cas, dans le monde macroscopique, c'est une interaction majeure, ça c'est sûr. Quoi. On le voit, je lâche une bille, elle tombe. Là, c'est le champ gravitationnel de la Terre, etc. Donc la gravitation, mon sens, en fait une idée à peu près claire. Quoi. Enfin, c'est une force qui n'est pas très ésotérique. Quoi. Après, on a l'interaction électromagnétique. Alors là, déjà, en fait, on est sur les charges
large.
Électriques. C'est assez large.
Ouais.
Déjà, il y a électromagnétique. Pendant longtemps, c'était deux choses qui n'avaient pas été unifiées. Il y avait la force électrique et la force magnétique. Quand elles ont été un peu découvertes et étudiées, moi, c'était surtout 18e puis 19e, on n'avait pas fait forcément le lien entre les aimants et l'électricité, quoi. Donc ça a été unifié. Donc la force électromagnétique, là, c'est tout ce qui concerne les particules chargées, en fait. Donc les charges électriques. On en a aussi tout plein d'exemples autour de nous.
Est-ce que ça prend en compte la lumière aussi?
Alors la lumière, c'est une onde électromagnétique.
Ouais.
Complètement. De la même façon qu'on avait parlé aussi dans une émission précédente des ondes gravitationnelles.
Oui.
Pour la gravitation. Donc voilà, la lumière est une onde électromagnétique, mais la lumière est aussi constituée de photons, qui sont des particules. Donc ça, je vais y revenir après sur ces particules. On a toujours cette idée, en fait, en physique, on appelle ça la dualité onde-corpuscule. Ça méritera une émission, un point d'astro à part entière. Mais on peut toujours décrire, en tout cas à l'échelle microscopique, la matière soit comme une onde, soit comme des particules.
Ok, voilà. Ouais. Par exemple le son.
Alors le son, c'est différent. Le son, c'est une onde mécanique.
D'accord.
C'est-à-dire c'est pas pareil. C'est une vibration de l'air, le son. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Mais dans l'espace, il y a de la lumière.
Ah oui. Ah
donc,
oui, ok.
Donc le champ électromagnétique, lui, il est. C'est une propriété intrinsèque de l'espace. C'est-à-dire qu'en tout point de l'espace, il y a une valeur de ce champ électromagnétique. qui évidemment va être influencé par ce qu'il y a autour, etc. Mais c'est pas pareil que la vibration de l'air ou que quand je jette une pierre dans l'eau, l'eau qui se met à bouger. Là, on est dans la mécanique.
D'accord.
C'est autre chose. Donc les, voilà les deux grandes interactions en fait, qui décrivent tout ce qu'on observe, en tout cas à l'échelle macroscopique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'interaction faible et l'interaction forte. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, parce que ça devient ultra technique là, dès qu'on soulève le tapis, et très complexe. Mais voilà, pour dire que ça, c'est des interactions qui vont avoir lieu au niveau des noyaux atomiques, en fait. Donc, vraiment dans la structure intime de la matière. Donc ça va devenir peut-être un peu plus clair quand je vais aussi associer le bestiaire des particules. Parce que là, je résume, là pour l'instant, on a quatre interactions. La gravitation, l'électromagnétisme, et puis à l'échelle vraiment microscopique ou atomique, interaction faible, interaction forte. Et donc voilà, la physique, elle explique tout avec ça. Il y a rien pour elle qui sort de ce cadre-là.
D'accord, tout est là-dedans, tout se passe quoi.
Voilà. Toute la réalité telle que la conçoit la physique se passe avec ces quatre forces-là, rien d'autre.
Okay.
Donc maintenant, ces forces, elles s'exercent soit par le biais, soit sur un certain nombre de particules qui constituent la matière. La matière et le rayonnement et tout ça. Alors, je vais détailler un petit peu. Et je vais commencer là, peut-être pour essayer d'être un peu clair, et pour faire du vocabulaire, par une sorte d'architecture de la matière. Donc, on va partir de l'atome. L'atome, c'est un concept qui est grec au départ. Les Grecs, ils avaient l'intuition d'une particule élémentaire qui serait un constituant de tout ce qu'on peut observer. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé atome. En grec, atome, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser, indivisible en fait.
Oui, c'est l'unité au milieu de la matière.
Ouais.
Et à partir de
c'est la brique élémentaire.
À partir de ça, on fabrique ce qu'on veut.
Ouais. Alors, il s'avère que c'est pas vrai. Il s'avère qu'en fait, nous, on est allé plus loin, que l'atome, il est lui-même constitué de différentes choses. Mais en fait, cette idée qu'il y a des briques élémentaires, on y est toujours. Et pour nous, alors on va partir d'en bas. Pour nous, les briques élémentaires, c'est ce qu'on appelle le quark. Donc ça, voilà, c'est un mot qu'on a peut-être déjà entendu ou croisé. Qu'est-ce que c'est qu'un quark ? C'est une toute petite particule. Et ces particules vont s'associer pour former les premières briques qu'on va appeler les protons et les neutrons. Alors ça, et ces protons et ces neutrons, ils s'associent pour former le noyau des atomes.
Le quark, donc c'est le plus petite chose qu'on observe
Alors qu'on observe, qu'on détecte, en fait c'est pour ça aussi qu'on construit des accélérateurs de particules, des choses comme ça. Concrètement, pour savoir ce qu'il y a dans la matière, la technique qu'ont trouvé les scientifiques, c'est de l'accélérer dans des grands circuits, pour appeler ça des grands circuits, hein, le CERN, les accélérateurs de particules, et ensuite de faire des collisions, en fait, de tout casser et de voir ce qui sort. Quoi. C'est comme si, pour étudier une voiture, on l'a projetée contre un mur et qu'on voit toutes les pièces qui dégagent.
C'est ce qu'on fait déjà.
Voilà, et c'est un peu ça l'idée. Donc nous, on n'est pas allé en dessous du quark. Donc les quarks constituent les protons et les neutrons, et les protons et les neutrons forment les noyaux des atomes. Et quand ensuite, autour de ces noyaux, on va trouver des électrons
qui gravitent autour, qui tournent autour.
Voilà. Donc noyaux plus donc les quarks ensemble, ça fait des noyaux.
Ouais.
Enfin, ça fait des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons ensemble, ça fait des noyaux atomiques. Les noyaux plus des électrons, ça fait un atome. Voilà. Donc depuis les Grecs, on a quand même avancé un peu.
Ouais.
Alors, peut-être on reviendra sur... on fait des modèles planétaires de l'atome où on imagine, en fait, le noyau, on va dire, comme le Soleil. Et puis autour, orbite plus loin des électrons qui se promènent. Alors, ces électrons, ils ont une particularité vraiment importante. C'est qu'ils sont chargés électriquement. En fait, c'est eux. Bon, électrons, électricité, quand même.
Ouais.
Donc, ils ont une petite charge négative. Et c'est, bon, ben ça, eux, c'est clairement, ils sont à l'origine de tout l'électromagnétisme. Donc ces électrons, ils peuvent en être dégagés, l'atome il peut en capter. Enfin, les électrons, ça bouge, ça se balade beaucoup.
C'est comme les atomes, ils peuvent fusionner.
Ouais, mais alors là, c'est une autre échelle. Là, on rentre dans les interactions faibles ou fortes. Les noyaux, parce qu'effectivement, on parlait de la matière. Par exemple, qu'est-ce qui différencie l'hydrogène du fer ? Eh ben, c'est que c'est le noyau, en fait. Ce qui définit l'élément chimique. Alors ça, c'est peut-être un souvenir qu'on a pour ceux qui sont allés au lycée. Dans les classes de physique, il y avait toujours le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, et qui s'est classé en fait par nombre de protons croissants. C'est-à-dire que l'atome le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. Et c'est quoi un atome d'hydrogène ? C'est un proton. Son noyau, c'est juste un proton. Ouais. Il n'y a pas de neutron. Et un électron autour.
C'est le plus simple.
C'est le plus simple, on ne peut pas faire plus simple. Après, on commence à rajouter des protons, des neutrons et donc des électrons, puisqu'au total, le proton, lui, il est chargé plus, l'électron, il est chargé moins. Mmh. Et l'atome, il est neutre. Donc ça doit se contrebalancer d'une façon ou d'une autre.
Ok.
Voilà, donc plus on rajoute des protons, plus on va avoir de la matière complexe, en fait. Et là, on va aller jusqu'aux éléments, le carbone, puis l'oxygène, puis le fer, puis tout ce qu'on veut, quoi.
Et c'est finalement, c'est un peu, je déborde un peu, mais c'est finalement le début de la vie, quelque part.
Alors, pour aller sur la vie, on va aller un peu plus loin.
C'est
parce
que ces atomes, le départ, il est là quand même.
Le départ, il est. En tout cas, c'est le départ de la matière.
Ouais.
Qu'elle soit organique, inorganique ou ce qu'on veut, toute la matière qu'on observe, elle est constituée de ça. Partout. Et que ce soit ici ou ce qu'on voit de l'espace ou ce qu'on a ramené de la Lune. Voilà. C'est toujours constitué comme ça, la matière.
Et moi, il y a un autre concept que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup de vide aussi.
Ouais.
Et que du coup, ça peut changer. Ça peut...
Changer comment,
ça peut changer, ça peut fusionner, se transformer.
Ouais.
C'est beaucoup de vide, finalement, tout ça.
C'est énormément de vide, ouais. Parce que, en fait, entre les la taille de du noyau atomique, c'est l'ordre de... c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc, ça fait 0,150 et 1 derrière.
Ouais.
Alors que la taille de l'atome, c'est l'angström, on est à 10-10 mètres. Donc on est 100 000 fois plus grand. En fait, on retrouve un peu l'idée qu'on a dans l'espace.
Et ouais, qu'il y a énormément de vide dans tout
ouais,
ça.
Ouais, le système solaire, au final, c'est surtout du vide. Quoi. Voilà. L'atome, c'est un peu pareil. Après, on ne peut pas comparer l'atome et l'espace, parce qu'à l'échelle atomique, on rentre dans la mécanique quantique. Et ça, c'est, j'en parlerai un petit peu à la fin, après avoir fini mon bestiaire, là, des différentes théories du coup, qui existent, au moins présentées, et le champ qu'elle recouvre. Donc on en est voilà, à ces atomes, constitués de noyaux qui eux-mêmes sont des protons, des neutrons, puis des électrons autour, et beaucoup de vide entre les deux. Maintenant, ces atomes, ils s'organisent entre eux, et ils font des molécules. Là aussi, dans l'idée du vocabulaire, là. Les molécules, c'est un groupe d'atomes. Il y en a des toutes petites, par exemple, l'eau. L'eau, H2O, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une molécule, elle va être constituée d'un atome d'oxygène, de deux atomes d'hydrogène.
D'accord.
Ça, c'est l'eau. Maintenant, les molécules, si on va dans les molécules organiques, justement, tu parlais de la vie, là, on a beaucoup la chimie du carbone.
Parce que le carbone, il peut se lier à beaucoup de choses.
C'est ça. C'est le carbone, il peut faire quatre liaisons, en fait.
Ah oui.
L'atome de carbone, il est capable de se lier quatre fois, là où l'hydrogène peut se lier qu'une fois.
D'accord.
Bon, donc, c'est pour ça, voilà. Donc,
peut se multiplier, quoi. Ça peut...
Ouais, ça peut faire des arbres, en fait. Ouais. Et les molécules organiques, elles peuvent devenir vraiment, vraiment super grosses et complexes, quoi. Mais par exemple, l'ADN.
Ouais, voilà, jusqu'à nous, jusqu'à un être vivant, quoi.
Donc après, on va appeler ça des macromolécules. Hein, c'est des grosses structures. Donc plus on va vers l'organique, plus on a sur... Mais on reste quand même sur des échelles, là, pour le coup, d'une dizaine, d'une centaine d'atomes.
Ok. Voilà.
Donc, et de là, ensuite, on arrive à la matière, quoi. J'ai parlé de l'eau, de tout ça, voilà. Donc ça, c'est les constituants élémentaires de la matière. Et à ça, on va rajouter des particules, on va rajouter les photons. Les photons c'est la lumière,
ça,
on l'a dit.
Alors ça, c'est autre chose encore.
C'est autre chose.
D'accord.
Un photon, on l'a déjà dit, mais il n'a pas de masse.
Ah oui,
c'est l'énergie pure en fait. Il peut aller à la vitesse de la lumière, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est lui la lumière, c'est le photon. Il n'a pas de masse, donc il a la capacité d'aller à cette vitesse limite que nous on n'imagine pas pouvoir dépasser. Donc il y a le photon qui est une particule vraiment importante en astronomie. Et le photon en fait, c'est juste il transporte de l'énergie. Donc le photon, lui, c'est l'interaction électromagnétique. Un photon, typiquement, il peut arriver sur un électron et d'un coup, l'électron va absorber ce photon. Absorber son énergie et du coup se faire dégager de l'atome par exemple. Ou à l'inverse, l'atome, il va pouvoir capter un électron, lui faire perdre de l'énergie, et du coup, ça va émettre un photon.
D'accord.
Donc, tous ces phénomènes-là, d'émission de lumière, en fait, parce que le photon, il faut bien l'émettre, il faut qu'il soit, il n'existe pas comme ça, quoi, il est créé. Cette énergie, elle vient de là, de phénomènes électromagnétiques. Donc comme il n'a pas de masse, lui il interagit pas, et donc à cette échelle là il y a pas de enfin la gravitation elle joue très très peu quoi. On est vraiment sur d'autres types d'interactions, voilà. Donc une fois qu'on a parlé des quarks, des protons, des neutrons, des électrons, des photons, en fait on a quasiment tout ce qu'on observe. Après on peut rajouter les neutrinos qui eux sont issus justement des interactions faibles et donc à l'échelle vraiment subatomique, hein, en dessous du, donc à l'intérieur du noyau. Mais ça, c'est des particules qui sont très étranges, qui n'ont pas de masse non plus, et surtout qui interagissent très peu avec la matière. Et donc, elles se baladent.
Et on peut traverser la matière,
voilà.
C'est ça
Il y en a en fait des milliards de milliards qui émises par le Soleil, principalement, là, pour nous en tout cas, et qui traversent la Terre en interagissant très très peu. Donc, pour les détecter, c'est difficile, on y arrive, mais voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur les neutrinos non plus. Mais voilà le type de particules qu'on peut rencontrer. Donc, les quatre grandes interactions, les particules que je viens de décrire, et pour décrire tout ça, les grandes théories de la physique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a pour la gravitation, mais la relativité générale, en fait. On a parlé de Newton avec sa théorie de la gravitation, mais quand même, le big boss maintenant, c'est Einstein. C'est lui qui a élargi le cadre,
ouais,
qui a posé les principes d'espace-temps, etc. Donc voilà, ce qu'on appelle la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, en fait. C'est la théorie de la gravitation qu'on a. Ensuite, l'électromagnétisme, ça a été élaboré quand même il y a déjà plus longtemps, 150 ans, donc on a des lois assez claires sur tout ça. En tout cas, à notre échelle, parce qu'ensuite il y a l'électrodynamique quantique, etc. Bon, là, je passe les détails.
Wow.
Et à l'échelle, par contre, atomique, on a la mécanique quantique. Donc, entre la mécanique quantique et la relativité générale, en fait, on a tout. Ce qu'on observe.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter la théorie du Big Bang. Donc ça, c'est typiquement, exclusivement astrophysique, où on est... Le Big Bang, c'est une théorie sur la naissance de l'univers. Voilà. Et un peu le Saint Graal que cherchent les physiciens maintenant, ce serait ce qu'ils appellent les théories de grande unification, où on arriverait à mettre ensemble la relativité générale et la mécanique quantique dans une même équation, parce qu'en fait les deux ça colle pas du tout.
C'est un peu ce qu'on disait de vouloir tout mathématiser et
ouais,
d'expliquer tout avec
ouais,
des chiffres et des calculs.
Et donc là actuellement quand même la physique théorique elle tend vers ça, essayer de
d'uniformiser. Ah, oui.
Ouais, d'unifier tout dans une grande équation une grande théorie qui pourrait tout expliquer, mais jusqu'à présent ça n'a pas été du tout atteint.
Et ouais, d'accord. Donc c'est toujours complexe ces questions-là.
C'est effectivement assez complexe. Et voilà, je crois avoir un petit peu fait le tour, peut-être même un peu trop étendu. J'espère avoir été à peu près clair sur le sujet.
En tout cas, c'était très intéressant.
Merci.
J'espère qu'on vous a pas trop perdu. Et puis on va se faire une petite pause pour digérer tout ça, là c'était un peu lourd. Et après on repart et on va explorer Vénus après tout ça. Ça va être cool, vous allez voir.
À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure. Rebonjour, vous êtes toujours sur l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDWA. Vous êtes avec Fred et Pierrick. Et donc dans cette deuxième partie d'émission, on va vous parler de Vénus.
Vénus.
Donc Vénus, cette planète, notre plus proche voisine, qui est du coup en fait très similaire à la nôtre, qui est la plus proche de nous, c'est la planète la plus proche de nous.
Ça dépend un peu de la période quand même, parce que il y a Mercure, Vénus, la Terre, c'est dans l'ordre, mais tu peux très bien avoir Mars qui est plutôt de notre côté et Vénus qui est de l'autre côté du Soleil, tu vois, ça dépend un petit peu ça.
Ok.
En son orbite est la plus proche de la nôtre.
Quand elle est proche, c'est elle qui est la plus proche.
Ouais, ça c'est juste.
Voilà. Donc elle fait partie des quatre planètes telluriques que tu viens de citer, Fred. Et c'est la deuxième après le Soleil. Donc la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Après, il y a Vénus. Après, il y a la Terre. Après, il y a Mars.
Donc juste précise, planète tellurique, ça veut dire solide.
Solide.
Parce qu'après, derrière, on appelle ça les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Puis après, Uranus, Neptune, qui ont des cœurs solides, mais qui sont quand même des planètes gazeuses.
Tout à fait. Donc Vénus, c'est quand même la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté.
De l'hystérie.
C'est aussi l'étoile du berger.
Ishtar. Ouais, c'est l'étoile du berger, le gros piège classique.
Ouais, donc c'est pas une étoile, bien sûr, c'est une planète. Mais c'est l'étoile du berger, on dit ça dans le folklore, en fait. C'est parce que c'est soit l'étoile du soir, comme en ce moment, elle est là le soir, elle brille fort. Soit l'étoile du matin, et pareil, on peut pas la rater.
Ah oui, c'est un phare.
Ouais. Donc ouais, on peut parler un peu de magnitude, c'est l'objet qui brille le plus dans le ciel, à part le Soleil et la Lune, bien sûr, mais c'est l'objet qui est le plus brillant dans le ciel.
Ouais, je précise un peu la notion de magnitude. Ouais. La magnitude, c'est une mesure de la luminosité apparente, de la luminosité d'une étoile, d'un astre, en fait, quel qu'il soit, qui brille dans le ciel. Et en fait, c'est une échelle logarithmique, donc ça veut dire, la magnitude, plus elle est élevée, plus l'objet est faible. Donc on la mesure entre 0 et 6 pour les étoiles visibles. La magnitude 6, c'est la limite de ce qu'on peut observer à l'œil nu. Avec un télescope amateur, on peut monter peut-être jusqu'à 8, 10, allez, 12, grand maximum. Au-delà, c'est terminé, quoi.
D'accord.
Et donc quand je dis que c'est une échelle logarithmique, ça veut dire qu'entre chaque ordre de magnitude, il y a un rapport 10 dans la luminosité. C'est-à-dire qu'un objet de magnitude 1 est 10 fois plus brillant qu'un objet de magnitude 2.
D'accord.
Voilà.
Ouais, merci Fred. Et donc cette planète, forcément, comme on le disait, elle est très visible. Elle est connue par de nombreuses civilisations. Ça fait très longtemps qu'elle est observée. Donc je vais parler un peu d'exploration spatiale maintenant.
C'est quand même ça ta chronique.
Mais ouais.
Chronique spatiale.
Donc c'est parti direct un peu sur Vénus au début de l'ère spatiale, au début des années 60. En fait, on savait pas grand chose de cette planète à l'époque. On la voyait au télescope de la Terre, mais on voyait qu'il y avait une atmosphère, mais c'était un peu. On savait pas ce qu'il y avait dessus.
Elle est très dense, cette atmosphère, et du coup, on voit pas du tout la surface de Vénus quand on l'observe au télescope.
Mais il y avait plein de mythes, comme. Tu sais, c'est un peu la sœur jumelle de la Terre, au niveau de la taille, c'est la même chose. Il y a une atmosphère, elle est pas très loin, du coup. On pensait même qu'il y avait de la vie, qu'il y avait des forêts luxuriantes, qu'il y avait de l'humidité, des océans. Il y a même une sonde qui a été envoyée avec des ballons gonflables au cas où elle se crache dans un océan et qu'il faut qu'elle flotte.
Et ben oui.
Donc voilà, tout de suite, ils ont voulu aller voir ce qu'il y avait là-bas dessus. Et il y avait beaucoup de questions. Et donc dans le programme soviétique, ils étaient chauds les soviétiques, j'ai parlé d'un bonhomme, j'ai parlé plusieurs fois de lui, c'est Sergueï Korolev. Donc c'est lui le père fondateur du programme spatial soviétique, c'est lui qui a envoyé le premier gars dans l'espace, etc. Et donc c'est lui qui a géré aussi le programme spatial pour aller explorer Vénus. Donc c'était le programme Venera. Donc ils étaient motivés parce qu'ils ont commencé par 13 échecs. Ils ont envoyé 13 fusées et ça a merdé les 13 fois.
Eh ben bravo.
Donc ils étaient bien motivés.
Ils ont pas lâché l'affaire quand même.
Non, puis en plus c'est dur à suivre parce que selon... Soit la fusée, elle marche pas, du coup, ça porte un nom. si ça s'explose en atmosphère, ça porte le nom de... ils ont changé les noms à chaque fois en fonction de comment, pour pas perdre la face, tu vois. Donc c'est dur à suivre. En tout cas, les premiers à réussir à aller à faire un survol, c'est les Américains. Donc c'est Mariner 2 en 1962, et qui met fin au mythe un peu de Vénus, qui est un peu la sœur jumelle de la Terre. Et en fait, non, en fait, les mesures qu'elle prend, cette sonde, c'est que la température au sol, ça fait 425 degrés.
Ah ouais.
Donc là, tu vois, c'est vraiment ouf. Avec une atmosphère très dense en CO2, il n'y a pas du tout d'eau. Et la pression atmosphérique au sol, elle est écrasante.
Ouais.
Elle est 90 bars. Donc, en fait, pour se faire une idée, la pression là, actuellement, on est tous assis dans son salon, ou je sais pas où, dans sa voiture, c'est 1 bar.
Ouais, ouais.
Donc 90 bars, c'est comme si on était au fond de l'océan.
Ah bah même, ouais.
Même, ouais, bon, ouais. Je sais rien, mais c'est énorme.
Je crois que c'est 1 bar tous les 10 mètres, un truc comme ça.
Ah oui.
Que tu, ouais, quand tu descends, il me semble. Donc ça voudrait dire quoi, 90 bars, ouais, ça fait 900 mètres de profondeur.
Ouais, voilà, c'est...
Ça fait lourd. Ouais.
Donc c'est pas le paradis idyllique qu'on s'imaginait.
Merci Vénus.
Donc petite anecdote qui m'a fait rire, c'est que donc j'ai dit que c'était Mariner 2 en 62 qui avait réussi à aller jusqu'à Vénus, mais avant il y a quand même eu Mariner 1 qui s'est quand même explosé à cause d'une erreur de programmation.
Oh.
Il paraît, enfin j'ai lu, qu'il y a un mec qui s'est gouré du tiré du 6, il a mis le tiré du 9.
Le classique.
Et du coup, ça a changé des trucs dans la programmation.
Ah, le bazar.
Et ça a fait exploser la fusée. Okay. Quoi. Il y a aussi un truc qui m'a fait rire, c'est les Soviétiques, donc dans leur 13 échecs, là. Donc ils ont envoyé un truc qui se fait appeler maintenant Cosmos 96, qui s'est crashé. Peut-être au Canada.
Peut-être. Okay.
Et qu'il y a des, donc, y a des témoignages de gens au Canada qui ont vu un truc passer dans le ciel, s'écraser dans une forêt. Ça n'a pas fait de victimes. Et tout de suite derrière, il y a eu l'armée américaine qui est venue, qui a tout sécurisé, qui a tout embarqué. Il n'y avait plus de traces de rien du tout. Donc c'est un petit peu un phénomène marquant d'ufologie. Enfin, il y en a qui pensent que c'est des ovnis... Bon, c'est pas
ufologie,
trop...
je précise, UFO, UFO c'est ovni en anglais, ufologie c'est la science des ovnis,
ouais.
Enfin la science ou disons l'étude des ovnis, du phénomène ovni, ouais.
Donc voilà, il y avait ce petit truc un peu rigolo. Et donc voilà, donc, dans les années 60 c'était plutôt l'étude de l'atmosphère, après dans les années 70, les Soviétiques s'acharnaient bien, et ils ont réussi à faire le premier atterrissage avec Venera 7. Donc là, la sonde elle a réussi à atterrir, à mesurer donc précisément la température du sol qui est autour de 500 degrés, donc de 90 bars. Et elle a mesuré qu'il y avait 96% de CO2 dans l'atmosphère.
Ah ouais.
Et un petit peu d'azote.
Donc eux, au niveau effet de serre, ils sont servis.
Ouais. Donc voilà, ouais, là, le
pour
CO2,
ça qu'il fait aussi chaud, s'ils sont plus près du soleil, il y a un effet de serre de fou.
Et bah ouais, justement, parce qu'il y a beaucoup de CO2, là, c'est la planète qui a la température la plus chaude du système solaire. Mmh. Même Mercure, qui est plus proche du soleil, il ne fait pas aussi chaud.
Mmh. Mais Mercure, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère. Enfin, très peu, parce qu'elle est aussi plus petite, elle est moins massive, et l'atmosphère, il faut pouvoir la garder, et ça, c'est la gravitation qui fait qu'on garde une atmosphère.
Ah,
si c'est pour ça que les astéroïdes, ils n'ont pas d'atmosphère aussi. Bon, il y a deux choses dans l'atmosphère, il faut la générer, la créer, parce qu'elle n'arrive pas au départ, quoi. Enfin, bon, c'est tout un truc, l'étude de l'atmosphère, on pourrait entrer, on fera
des
émissions.
Mais
en tout cas, ouais, s'il n'y a pas assez de masse, il n'y a pas d'atmosphère qui peut rester, quoi.
Ok. Et ouais, du coup, en 75, il y a Venera 9 qui a fait la première image. Donc ça, j'aimerais bien mettre en image sur le podcast de l'émission, si vous allez voir sur le site.
Oui, sur le podcast, chaque semaine, on met une image.
Voilà, il y aura une image de Vénus.
Ouais.
Après, je fais un petit tour exhaustif. Alors, en 78, il y a Pioneer Vénus Multiprobe. C'est le premier atterrissage US et le seul. Donc juste après les Russes. Après, dans les années 90, t'as la sonde Magellan qui a cartographié toute la planète, mais juste par un sonar. Tu vois, il n'y a pas d'image en fait.
Ouais.
C'est comme on n'arrive pas à voir l'atmosphère.
Ouais, c'est des éco-radars, quoi.
Voilà,
ouais.
Donc on voit des montagnes, des machins.
Mm-hmm.
Non, je ne sais pas trop, quoi. Après, il y a Vénus Express, c'est une sonde européenne qui étudie plus l'atmosphère. Donc l'atmosphère de Vénus est vraiment particulière. Elle est hyper dense. Donc comme j'ai dit, c'est comme si c'était un océan en fait qui était sur Vénus, sauf que c'est sous forme gazeuse, mais c'est aussi dense.
Ok.
Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'une période orbitale de Vénus, c'est 224 jours. Donc ça, c'est la période orbitale, c'est quand elle tourne autour du Soleil. Mmh.
Mais nous, c'est un an, 365 jours.
Voilà. Donc ça, c'est 224 jours.
Ouais.
Elle tourne de manière rétrograde, Vénus. C'est-à-dire qu'elle tourne pas dans le même sens que nous, elle tourne dans l'autre sens. J'ai trouvé ça étonnant. Comme Uranus aussi. Elle tourne dans l'autre sens, sur elle-même, tu vois.
Oui, voilà, sur elle-même. Ouais. Elle tourne dans le même sens autour du Soleil.
Oui, mais sur elle-même, elle tourne dans l'autre sens.
D'accord. Ouais. Oui, c'est ça.
Et elle met 243 jours pour faire un tour sur elle-même.
Ah ça, oui, elle met un peu plus d'une année à elle.
Donc elle met, c'est plus rapide pour elle de faire le tour du Soleil que de faire un tour sur elle-même.
Bah, c'est aussi pour ça. Il doit y avoir une grosse différence de température, non ? Ah non, il y a l'atmosphère, mais du coup, c'est-à-dire que ça chauffe toujours la même face, grosso modo.
Et ouais, et
elle présente quasiment, c'est un peu comme la Lune, quoi.
Exactement. Ouais. Et il y a une face, on ne sait pas ce qui se passe dessus, en fait, on n'a jamais vu. Ça, c'est les projets de future exploration, d'aller voir cette face qu'on voit pas trop, d'aller voir s'il y a des volcans. Et il y a aussi des délires qui me font rigoler, c'est d'envoyer une sonde sur la planète et là de larguer un ballon dans l'atmosphère.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, dans l'atmosphère basse, donc c'est 90 bars, là, c'est invivable, mm-hmm. 500 degrés, enfin, tu peux rien faire. Les sondes, là, toutes les sondes, elles durent une heure et après elles sont kaputes, quoi.
Mais t'imagines le délire technologique de préparation d'une mission, les budgets et tout, et ça reste une heure. Quoi.
Ouais.
Une heure pour transmettre des données et après kaput.
Une photo.
C'est quand même un truc un peu fou, cette histoire d'exploration spatiale, des
fois.
Ouais,
je trouve que c'est hallucinant.
Ouais.
Et voilà, donc dans.
Donc de lâcher un ballon, tu disais.
Ouais, alors un ballon, ou des espèces de.
Ouais, une sorte de montgolfière, quoi.
Ouais, ou même des drones, ou des espèces de grandes Raymanta, enfin des espèces de formes de Raymanta avec des grandes ailes.
Ouais.
Parce que dans l'atmosphère, à un moment donné, la pression retombe, la température aussi, c'est plus supportable.
Mmh.
Et en fait, les vents, ils vont super vite, ils tournent à je sais plus combien de mètres secondes, enfin.
D'accord.
C'est des trucs de fou et ça pourrait rester en vol à un moment, en fait. Bon, c'est les projets, tu vois. Mais...
Ok.
Voilà, donc Vénus. On pensait qu'il y avait de la vie à un moment là-bas, mais non, en fait, pas du tout.
Non.
C'est carrément invivable. C'est pour ça qu'à
présent, pas trouvé, quoi.
C'est pour ça que tous les efforts sont plutôt concentrés sur Mars, où l'atmosphère est plus douce.
Après, les efforts sur Mars, c'est pas tant pour trouver de la vie, c'est plus pour implanter des bases ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, pour faire d'exploration, c'est plus facile.
Ouais. Ok.
Voilà.
Bah, merci Pierrick pour tout ça. Donc là, tu nous as parlé de Vénus, et puis tu vas continuer un peu dans la suite des émissions là, sur les planètes du système solaire.
Oui,
en
bah.
Tout cas, les planètes telluriques.
Ouais, la prochaine, ce sera Mercure.
Ok. Super. Eh bien, merci. On va passer à la rubrique suivante, la dernière rubrique de l'émission, la rubrique Abrac. Et donc, cette semaine, on a décidé de vous parler du projet SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, c'est-à-dire recherche pour les intelligences extraterrestres. De parler de ça et donc d'aborder un thème qui est quand même connexe à l'astronomie, mais qui nous intéresse aussi, c'est le thème extraterrestre. Ça vient forcément à quiconque observe le ciel. Et est-ce qu'on est seul dans l'univers ? C'est une vieille question. Nous, on a envie d'aborder ça avec des faits, effectivement, ce que la science raconte là-dessus, mais aussi d'un point de vue émotionnel, un point de vue imaginaire, tout ça, quoi. Pas uniquement scientifique. Donc, alors on commence par SETI. Donc SETI, ce projet, il date de 1960 et il a été initié par un astronome qui s'appelle Frank Drake, donc un Américain.
Yeah.
Donc d'ailleurs, Pierrick, tu nous reparleras dans une prochaine émission.
Oui.
Ce Frank Drake, lui, c'était quand même c'était un scientifique, mais c'était aussi un doux rêveur depuis l'enfance. Il était obsédé par justement cette question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Et donc, il a réussi à mettre en œuvre un peu les énergies et les fonds nécessaires au projet SETI, qui consiste en fait concrètement à écouter le ciel. C'est-à-dire, on prend une grosse antenne et on pointe cette antenne dans une direction. Bah, en fait, n'importe où, quoi. Là où on pense que ça peut marcher, où on ne sait pas.
On ne vise pas des étoiles ou des trucs comme ça.
Si, au début, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont visé Sirius, par exemple. Ils ont visé certaines étoiles, bon, et puis ils ont essayé de voir ce qu'ils recevaient comme signal. Et dans leur idée, c'est est-ce qu'on peut détecter un signal cohérent, un signal qui vient d'une civilisation technologique qui émettrait des choses.
Mais il n'y a pas un décalage temporel, du coup ?
Alors, il y a un décalage
temporel. Le temps que d'autres signaux arrivent ou qu'on capte ceux des autres.
Alors, nous, oui, il y a toujours cette histoire de vitesse de la lumière dont on a parlé, qui, même si elle est très rapide, est quand même finie, et que l'étoile la plus proche de nous, il faut 4 ans pour voir la lumière. Qui vient d'elle, et puis après c'est 10 000 ans, bon, mais ça c'est comme ça, on fait avec, quoi. Donc c'est un peu bouteille à la mer, ce projet SETI. Alors au début ils ont cherché par exemple la signature de l'eau, par exemple, parce que s'il y a une planète et qu'il y a une atmosphère et qu'il y a de l'eau dedans, on va le voir en fait au télescope. Parce que l'eau, elle va absorber la lumière d'une certaine façon. C'est-à-dire la lumière qui, par exemple, la lumière qui vient de l'étoile, qui illumine une planète, cette planète, elle va réémettre sa lumière, et c'est ça qu'on va observer. Mais cette lumière, elle est réémise et elle est filtrée par l'atmosphère. Donc, là, on a une signature de chimique, en fait.
De l'eau.
De l'eau ou de tout ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc au début, les premiers trucs que Frank Drake a cherché, c'est l'hydrogène. Après, ils ont cherché l'eau, ils ont cherché tout ça. Bon, on va pas faire l'historique complète du programme SETI, c'est pas forcément le sujet ce soir. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est écouter le ciel, observer le ciel dans différentes longueurs d'onde. Ça, on en parlera un peu aussi de ces notions de longueur d'onde, de tout ça, dans une prochaine émission. Mais en gros, à différents endroits du spectre électromagnétique, et voir si on peut capter quelque chose qui nous semble pas naturel, en fait. C'est ça. Un truc qui sort de ce que la nature nous envoie d'habitude et qui serait la signature d'une activité intelligente.
Mais c'est quoi ? C'est des ondes radio comme nous là ?
Ouais, alors radio, au départ, c'était un télescope. Alors il était où ce télescope ? À Green Bank, aux États-Unis. C'était une antenne de 26 mètres quand même. Ça, c'était le premier télescope SETI. C'est un radiotélescope, ouais, il observait dans la radio. J'expliquerai dans les prochaines émissions pourquoi on observe dans les ondes radio. Juste précise que les ondes radio, c'est une partie du spectre électromagnétique.
Ouais, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ouais, c'est pas évident.
C'est, pour un astrophysicien, observer dans le visible ou observer en radio, en fait on observe la même chose. C'est juste pas la même fréquence, c'est pas au même endroit du spectre. Dans ce spectre, il y a l'infrarouge, il y a le visible, il y a l'ultraviolet, il y a les rayons gamma, il y a tout ce qu'on veut, il y a les ondes radio. On en reparlera. Mais tout ça, en fait, c'est juste la même chose. C'est comme si une fenêtre d'observation d'une même chose.
Et c'est juste, si par exemple, on observe, comme on disait, une planète avec de l'eau, le spectre de lumière, là, il va être particulier.
Ouais, on va trouver ce qu'on appelle une raie d'absorption. C'est-à-dire que l'eau, elle va absorber la lumière d'une certaine façon. Et donc, du coup, il va manquer un endroit du spectre, il manque un truc, des raies d'absorption.
D'accord.
On observe soit des raies d'émission, soit des raies d'absorption.
Et ça, c'est valable pour plusieurs matières.
C'est valable pour tout. Okay. C'est comme ça qu'on étudie. En fait, c'est comme ça qu'on étudie les étoiles et la matière qui la constitue.
Ouais, d'accord.
C'est uniquement comme ça, en faisant les spectres. C'est-à-dire, en revenant aux idées de Newton, quoi, en décomposant la lumière dans ses différentes longueurs d'onde et en voyant ce qu'on observe.
Et donc là, avec son premier télescope, il écoutait le ciel.
On dit écouter parce que c'est aux fréquences radio, hein, ouais. Mais on est d'accord que c'est observé, voilà. Et bon, ils ont rien trouvé. Alors ce programme SETI, il continue encore maintenant. Et en fait, on parle des programmes SETI. Et il y a tout un tas de projets, voilà. Alors qui régulièrement ont des problèmes de financement parce que ça motive pas forcément tout le monde.
Parce que ça fait un petit moment, il se passe pas grand-chose.
Ouais, depuis donc 1960, et effectivement, il y a aucun résultat, quoi. Mais il y a quand même cette motivation, voilà, et on en arrive un peu à ça, l'imaginaire, des rencontres extraterrestres, etc. Il y a cette motivation et cette question qui est quand même un peu obsédante. enfin, que toutes les civilisations se sont posées ce questionnement, mais pourquoi on est tout seul, pourquoi...
déjà avant sur Terre, j'imagine les gens qui...
Mais tout, voilà.
Ouais,
pourquoi on est tout seul, pourquoi ils sont où, s'il y a nous, il y a forcément d'autres, etc. Bon, toutes ces questions, on se les pose tous, à un moment ou à un autre. Alors après, c'est un obsède plus que d'autres. Il y en a qui s'obsèdent plus que d'autres.
Mais même là, en parlant de Vénus, tu vois, c'est le fond du projet, c'est ça, quoi.
Ben oui.
C'est aller voir ce qu'il y a, ben oui. Ça se trouve, il y a des petites bêtes.
Et Mars, c'était pareil, hein, l'histoire des canaux martiens, tout ça. Bon, voilà. Chercher de la vie, chercher autre chose. Voilà. Une autre forme de conscience, une autre forme d'intelligence. Et alors, on va parler un peu de ça quand même. Donc, cet imaginaire des rencontres extraterrestres, c'est quoi ? Ben là, que chacun regarde un peu à l'intérieur de lui-même. Hein. Nous, on va partager nos impressions là-dessus. Mais on peut peut-être commencer par parler de films. Parce que je trouve, les films, c'est des trucs grand public, beaucoup de gens ont vu. Et moi, je trouve que quand on regarde ces films, depuis qu'il y en a, il y a quand même deux grandes tendances. Il y a soit la version, on va dire, E.T., Rencontre du troisième type, des films comme ça, où on est dans la rencontre, dans quelque chose qui nous emmène vers autre chose, ou alors on a des réactions du type Independence Day, tout ça là, où là c'est clairement les gros méchants, ils débarquent, il faut l'éviter parce que sinon ils vont nous exterminer. Et ça nous renvoie évidemment à des trucs qui sont assez profonds, ancrés dans l'homme, qui sont soit la peur, la peur en fait.
C'est ça la base, c'est la peur quoi.
Peur
de l'autre, la peur du nouveau.
Ou ce que tu racontais l'autre jour là sur le disque de Voyager, hein, dont on a parlé, où il y avait toutes ces informations sur l'humanité, et tu disais Carl Sagan, qui est quand même pas n'importe qui disait mais il faut pas envoyer ces informations là-bas, on sait pas qui peut les trouver, et après ils savent tout sur nous, ils peuvent venir nous attaquer.
Ça peut être dangereux.
Peut être dangereux, etc. Et donc moi l'autre jour avec mon fils, j'ai regardé un vieux film qui est La Soupe aux Choux, quand même un grand classique du cinéma français. Et quand même dans La Soupe aux Choux, il y a cette scène donc c'est quand Villeray, il arrive avec sa soucoupe, il se pose dans le jardin du Glaude. Et donc là on a Louis de Funès qui sort en bonnet de nuit avec son tromblon, il ouvre la porte, il voit ça et il voit Villeray qui sort. Il dit avec le fusil, et finalement il te boit un canon. Et ça serait comme ça, quoi.
C'est vrai qu'on est loin du Independence Day, ou du film de Geiger
c'est une comédie, il y a un côté un peu bon, ce qu'on veut, mais en attendant, l'attitude du mec, c'est quand même on discute, et voilà quoi.
Dans le même délire, il y a un Premier Contact, tu crois,
mais chouette ce film aussi.
Où ils essayent de communiquer, parce que finalement, comment tu communiques avec des gens où t'as même pas des gens, mais...
Ouais, il n'est qu'une entité, comment communiquer.
Des signes, des machins...
Ouais.
Il est intéressant pour ça, ce film de...
Carrément. Et après, même visuellement, là, le langage qu'ils ont mis en place et tout, je trouve que c'est assez beau, quoi.
Ouais, j'ai bien aimé tous ces signes et tout, et c'est une belle réflexion là-dessus. Il y a aussi Rencontre du troisième type.
Ouais.
Je trouve génial
avec les rêves, la musique là qui est
obsédante. C'est magique.
C'est obsédant, quoi.
La lumière, la musique.
Puis les rêves où ils ont tous la vision. Donc là, on rentre dans un peu autre chose quand même. C'est-à-dire, on imagine une entité qui est capable d'interagir. Ils font tous le rêve de la montagne en fait. Où on voit le gars, si tu te souviens, le gars il fait carrément une maquette, il devient complètement obsédé par le truc. Parce qu'il a cette vision de la montagne où en fait vont arriver les extraterrestres. Qui pour une raison ou pour une autre ont sélectionné des gens, on ne sait pas pourquoi, comment, mais en fait qui ont été choisis par ces extraterrestres pour venir les retrouver et pour partir. Et d'ailleurs, à chaque fois dans ces films, même qu'ils soient ouverture ou pas, même dans E.T. aussi, là c'est plus un film avec un enfant, tout ça, donc on est dans autre chose, mais on est quand même dans un E.T., il ne vient pas avec des canons et tout ça, il est là, il se retrouve tout seul, paumé, E.T. téléphone maison, il veut rentrer, quoi.
Ouais.
Et là, il rencontre cet enfant, il y a ses rencontres, mais il y a toujours cette notion quand même d'armée autour.
Ah oui,
il y a toujours, on sécurise le périmètre, c'est parti, les gants combinaison, les mitraillettes et tout. Et ça, moi, ça m'amène à une réflexion aussi que je me suis souvent faite, c'est que dans l'état actuel de la Terre et comment on fonctionne, s'il y a une rencontre extraterrestre qui doit se passer, les premiers qui vont être en première ligne, ça va être l'armée directe. Et c'est pas forcément, à mon avis, le meilleur choix ou tu vois la meilleure représentation qu'on peut faire en fait ou proposer à des entités qui arrivent et qui sont, si elles sont pas hostiles, elles peuvent assez vite le devenir quoi. Enfin nous on a quand même ce côté peur qui est vachement là.
En même temps s'ils viennent nous voir, c'est pas pour nous défoncer.
Bah t'en sais rien, tu vois. Après, c'est vrai que tu peux te faire l'avocat du diable, tous les délires du genre, ils ont plus de ressources sur leur planète.
Ils ont pourri la planète comme nous.
Ils ont pourri la leur, ouais, tu vois. Il y a tout ce délire-là aussi. Mais en tout cas, il y a toujours ouais, cette idée d'armée et de tout ça. Mais là, pour revenir à Rencontre du Troisième Type et à l'idée des rêves, tout ça, moi, c'est aussi un truc que je trouve intéressant.
Rêver d'un truc?
Non, alors pas encore. Mais c'est un peu... Il y a aussi deux visions, je trouve, dans les extraterrestres qui se dégagent de tout ça. C'est soit une vision un peu, on va dire, matérialiste, où effectivement, l'extraterrestre, il vient d'une planète lointaine. Il maîtrise une technologie que nous, on maîtrise pas, mais qui lui permet de se déplacer à travers les immensités de l'espace et d'arriver jusqu'à nous. Mais il vient comme... Il habite quand même dans l'espace physique, quoi, quelque part.
Ouais.
Et il y a aussi une autre version qui est plutôt, on va dire, dimensionnelle. C'est-à-dire, l'extraterrestre, c'est une entité qui vibre à un autre niveau, qui est dans une autre dimension et qui communique.
Qui n'a pas forcément un corps physique comme on l'entend nous. Et...
Par exemple, qui... ouais. Exactement. Voilà. Et là, on va rejoindre, par exemple... Enfin, c'est assez marrant quand tu regardes... Il y avait une rencontre entre des moines tibétains et certaines personnes qui étudiaient des phénomènes d'OVNI, etc. Et pour eux, les Tibétains, il est très clair que les activités humaines, en fait, par leur nature assez négative dans l'ensemble, dérangent d'autres entités qui vivent dans des niveaux plus subtils et qui, du coup, viennent nous visiter pour aussi nous dire « Eh les gars !» Qu'est-ce que vous faites, quoi? Donc, les Tibétains, par exemple, ils sont, pour eux, c'est... Oui, il y a des extraterrestres, mais eux, ils ne les voient pas comme habitant une planète lointaine. Ils les voient comme habitant une autre dimension, un autre niveau d'existence.
Ah ouais, qu'on ne voit pas forcément.
Et là, c'est aussi une autre approche, quoi, du truc. Donc, voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de parler ce soir. Ces idées de peur ou pas.
C'est toujours la peur de l'autre. C'est...
La peur de l'inconnu, de tout ça. Et puis cette idée quand même intéressante, je trouve, entre la distance physique ou les dimensions, si elles existent. Voilà. Donc, je ne sais pas si toi, t'as quelque chose à rajouter là-dessus.
Écoute, c'était déjà pas mal. Eh ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu de tout notre cœur. On va souvent parler de science-fiction et de choses comme ça à l'avenir, puisque ça nous fait bien triper quand même.
C'est vrai.
En ce moment, je suis en train de me faire tous les Star Trek, et là, c'est vaste entreprise. Il y en a beaucoup.
Bon, et ben, on te souhaite bien du plaisir dans tout ça. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Étoile Polaire.
Merci.
À bientôt. Au revoir.